Chers frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir en cette veille de Pentecôte pour un partage autour de la parole de Dieu. Mais avant d'aborder le thème de ce jour, je tiens à vous transmettre les salutations fraternelles de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Hâte. Chaque année, nous suivons donc l'exemple du judaïsme pour célébrer la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Bien que ces fêtes n'aient pas la même signification et ne se célèbrent d'ailleurs pas aux mêmes dates. Bien que justifiées, ces fêtes annuelles finissent souvent par devenir une habitude et elles ne nous interpellent plus vraiment. Je vous propose donc de revenir à certains fondamentaux à travers une affirmation de l'apôtre Paul qui s'adresse par deux fois de cette façon aux chrétiens de Corinthe, en leur disant « Dieu nous a donné les arts de l'esprit ». Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Ce sera le thème donc, de notre méditation ce matin. C'est avec raison que la Pentecôte est généralement présentée comme l'événement fondateur de l'Église chrétienne, puisque ce jour-là, 3000 âmes se sont converties et furent baptisées au nom du Seigneur Jésus. En effet, dans les Actes, au chapitre 2, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ce souffle divin présent le jour de la Pentecôte, on le retrouve presque mot pour mot dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3. « Le vent, dit Jésus, souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Voyons, on retrouve cette idée d'un vent, d'un souffle et d'un bruit, exactement comme dans le récit de la Pentecôte. Cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème correspond donc au don du Saint-Esprit aux disciples de Jésus et à la recréation intérieure dont ils seront désormais l'objet. En fait, le jour de la Pentecôte marqua le début de la nouvelle création que Dieu était en train d'accomplir. Une création spirituelle qui allait concerner toutes celles et tous ceux qui recevraient l'Esprit de Dieu, en même temps qu'ils accueilleraient le Seigneur Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Dans 2 Corinthiens, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Il est une nouvelle création. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. » C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul atteste aussi dans la deuxième aux Corinthiens et ce qu'il confessera dans son épître aux Galates. Ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien. Pour moi, dit Paul, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création. Être une nouvelle création. Ainsi, au milieu du fracas d'un monde qui se disloque, d'un tohu-bohu, comme il est dit dans la Genèse, d'une humanité qui travaille à sa propre ruine, avons-nous pleinement conscience de participer à la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer? Avons-nous cette conscience? Une nouvelle création. Et cette nouvelle création, mon frère, ma sœur, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous depuis la Pentecôte, ainsi chacun d'entre nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Ce sont aussi toutes celles et tous ceux qui le recevront jusqu'au retour du Seigneur. Ce que Paul explique dans le célèbre chapitre 8 de sa lettre aux chrétiens de Rome, il disait ceci, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire sous l'emprise de vos instincts, de vos pulsions, de votre nature animale non régénérée. Hein, nous connaissons cette expression. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'Esprit Saint. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Un peu plus loin, d'ailleurs, dans la même épître, l'apôtre Paul explique « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons aussi et nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » Nous aussi, donc, nous souffrons cette douleur de l'enfantement, bien que ayant reçu les prémices de l'Esprit. Je me demande souvent si nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu, nous mesurons vraiment ce privilège. Certes, cet enfantement qui fait de nous des enfants de Dieu se fait au milieu d'un monde en souffrance, où nous-mêmes avons pleuré sur notre vie de péché, sans Dieu, sans espoir. Mais il ne faudrait pas que cela nous fasse perdre de vue ce que nous sommes devenus en Christ et par l'Esprit Saint. Non pas des hommes ou des femmes meilleurs que d'autres, mais des hommes, des femmes qui ont désormais ce privilège d'être adoptés par leur Père Céleste. Des hommes et des femmes, donc, qui dès maintenant ont part au royaume de Dieu. Or, disait Jésus, ce royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Lors de la présence du Seigneur ici-bas, les disciples voulaient voir en Jésus un roi puissant qui allait les débarrasser de l'occupation romaine. Et aujourd'hui, un peu de la même façon, beaucoup de chrétiens voudraient voir dans l'Esprit Saint une puissance susceptible de leur donner la victoire sur toutes les souffrances que Satan impose à ce monde. Hélas, et c'est Jésus aussi qui nous le dit, si spirituellement nous ne faisons plus partie de ce monde, ben physiquement nous sommes toujours bien présents dans ce monde. Hein, Jésus nous dit ça dans la prière sacerdotale. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes malgré tout présents dans le monde. Aussi, Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour nous consoler, nous réconforter, nous fortifier, dans l'attente de son prochain retour, où alors là nous entrerons pleinement dans la gloire. Et Jésus disait dans Jean chapitre 14, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avec vous, il sera en vous. » Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous faut nuancer notre participation au royaume de Dieu. Notre participation à la nature spirituelle du Christ demeure partielle. Aussi, tant que nous vivons dans ce corps physique qui est le nôtre, celui-ci est comme une sorte de matrice qui nous enveloppe tout au long de notre séjour ici-bas, en attendant de quitter ce monde spatio-temporel pour entrer dans la gloire céleste. Dieu nous offre cependant un avant-goût du ciel, très significatif à travers l'habitation du Saint-Esprit en nous. En fait, c'est comme un acompte de ce qui nous attend, comme les airs de l'éternité glorieuse qui nous est promise et dont le Saint-Esprit nourrit notre espérance. Vous savez qu'en commerce, il arrive qu'on donne un acompte pour avoir en quelque sorte la garantie que ce que nous avons acheté nous sera retenu et livré en temps opportun. Et le Seigneur de même nous a donné un acompte au travers l'Esprit Saint, et c'est là le cœur de ma réflexion ce matin. C'est même plus qu'une espérance, car l'Esprit de Dieu agit en nous de deux façons bien précises. Et nous voulons nous y arrêter un instant. Tout d'abord, la présence du Saint-Esprit en nous nous confère une pleine assurance en ce qui concerne les promesses de Dieu. En fait, la foi nous conduit à une pleine certitude, l'assurance des choses dont on espère, n'est-ce pas? Une certitude absolue concernant la réalité de l'univers spirituel auquel nous sommes destinés. Non, la vie éternelle n'est pas un rêve. Nous en avons la certitude parce que Dieu nous en a donné un acompte au travers de l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'aux chrétiens de Corinthe, Paul affirme ceci. Il nous dit « Toutes promesses de Dieu ne sont pas oui et non, mais elles sont parfaitement oui et amen en Jésus-Christ. Car, dit-il, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau, qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Nous savons comment le Seigneur a signé toutes ses promesses et notre salut de son sang au calvaire, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Non seulement nous sommes marqués du sceau du Seigneur, mais nous en avons aussi un acompte reçu de lui au travers de l'Esprit Saint. Paul, d'ailleurs, ne dit rien d'autre aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, quand il leur rappelle ceci, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous êtes pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Cette assurance, elle est totale, et je l'espère que c'est notre cas à chacun ce matin. Cette assurance qui vient du témoignage du Saint-Esprit à notre esprit. Le Seigneur nous donne cette certitude intérieure, si bien que cette assurance que nous ne pouvons pas vraiment expliquer à ceux qui ne l'ont pas reçue, nous tous qui l'avons reçue, nous savons exactement de quoi il s'agit, parce que cette assurance, elle est en nous. Alors, chers frères et sœurs, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'à la différence des autres religions, la foi chrétienne n'est pas simplement une croyance, pas quelque chose que l'on croit, une sorte d'autosuggestion qu'on pourrait se faire, mais elle est fondée sur une expérience bien réelle. Elle est fondée sur cette expérience de l'habitation du Saint-Esprit en nous et du témoignage du Saint-Esprit au plus profond de notre être. Et cela, bien que ça soit de nature surnaturelle et quelque part, comme je viens de le dire, nous sommes incapables de l'expliquer parce que on manque de références dans le domaine matériel pour pouvoir l'expliquer à d'autres. Mais lorsqu'on l'a vraiment expérimenté, c'est une certitude absolue. C'est une certitude qui nous atteste que nous sommes vraiment les fils et les filles de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes frères de son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. En d'autres mots, le Saint-Esprit nous place aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de rédemption que Jésus a accomplie il y a maintenant 2000 ans sur la croix. Et l'union avec le Christ ressuscité qui en résulte nous donne une pleine confiance. Comme je viens de le dire, c'est une foi absolue à travers ce que nous vivons au quotidien. Aussi, permettez-moi de vous poser cette question. Bien sûr, je n'entendrai pas votre réponse, mais vous répondrez devant Dieu dans votre cœur. Qu'en est-il de votre faculté d'émerveillement devant la bonté du Seigneur ? Autrement dit, qu'en est-il du témoignage intérieur du Saint-Esprit en vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous remplit de joie, qui vous émerveille toujours comme au premier jour ? Comme je le disais en introduction, le danger parfois de ces fêtes annuelles, c'est qu'elles deviennent des habitudes et on, comme toute habitude, on en perd le sel quelque part et on a un peu perdu cette faculté de s'émerveiller devant ce miracle. Dieu qui vient habiter dans notre cœur. Mon union avec mon épouse Françoise n'est pas de l'ordre de la croyance, elle est de l'ordre de l'expérience, c'est une relation. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu, c'est pas une croyance, c'est une relation. Et pour revenir à Françoise et moi, bien nos enfants sont là pour attester de la réalité de cette relation. Et ceci m'amène au deuxième aspect des arts de l'Esprit Saint, tel que Paul nous en parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Il confirme ce que nous avons dit, tant que nous vivons ici-bas, nous endurons souffrance, frustration. Aussi, nous sommes impatients d'entrer dans la gloire céleste, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette expérience, je le sais, elle nous habite pour la plupart. Nous disons dans le fond de notre cœur, « Oui Seigneur, quand est-ce que tu viendras ?» Et c'est aussi ce que Paul disait donc dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous revenons donc au thème de notre méditation. Hein. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit, c'est à compte. S'il est vrai qu'à l'exemple du Christ, nous souffrons dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps physique, il est tout aussi vrai que comme Jésus, ce corps est un instrument que Dieu nous a donné pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée ici-bas. Nous connaissons tous cet adage bien connu, « sauver pour servir ». Et si nous vivons ici-bas, c'est parce que le Seigneur a une mission pour nous. Hélas, qui est suffisant pour une tâche pareille? On se sent souvent très petit. Et on pourrait dire, personne n'est suffisant pour avoir la capacité de faire ce que Dieu nous demande, nous confie, sauf si nous puisons notre force dans cet acompte du monde à venir que Dieu nous offre dans la personne du Saint-Esprit. Avec les arts de l'Esprit, nous ne sommes pas encore au ciel, mais c'est comme si le ciel venait vers nous pour attester de sa réalité. Et n'est-ce pas extraordinaire? De la même façon que Jésus s'est incarné dans un corps physique, aujourd'hui le Saint-Esprit veut s'incarner non pas dans le corps de Jésus-Christ, mais en nous. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, cette réalité est attestée par l'Esprit-Saint que nous avons reçu lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur. Et la parole nous dit que nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Autrement dit, baptiser, vous rappelez en grec, ça veut dire plonger. Le Seigneur nous a plongés dans l'Esprit-Saint lors de notre conversion à Jésus-Christ. Celui-ci étant la tête d'un corps dont nous sommes devenus l'un des membres actifs et, je l'espère, soumis, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. En effet, nous dit l'apôtre Paul, toujours lui, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le ciment qui nous unit, mes frères, mes sœurs, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes tous différents, avec des vocations différentes. C'est pourquoi nous n'avons pas à imiter l'un ou à copier l'autre. Nous sommes tous différents, comme les membres dans un corps, avec des fonctions différentes. Mais ce qui nous unit, j'allais dire le sang qui coule dans nos veines, mais enfin c'est une image, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous a donné et qui fait de nous un seul corps, dont Jésus-Christ est la tête. Paul nous rappelle ici une autre distinction au regard de la plupart des religions, c'est que nous ne sommes pas des numéros aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, notre Père Céleste, tous ses enfants sont différents. Bien sûr, Dieu nous connaît par notre nom, comme il est dit dans les prophètes, mais il nous traite en conséquence en nous confiant des tâches différentes, des tâches qui sont adaptées à nos aptitudes, aux dons qu'il nous a donnés. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Nous sommes tous différents les uns des autres et pourtant nous appartenons tous à un même corps qui est l'Église de Jésus-Christ, le corps dont il est la tête. Et pour reprendre d'ailleurs cette parabole du corps de Christ avec les chrétiens de Rome, Paul dira, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le grand danger de l'Église, c'est de croire qu'on peut être chrétien seul. Combien de chrétiens m'ont dit « Oui, je ne viens plus à l'Église, mais tu sais, je prie et je lis la Bible à la maison. » Bien sûr, c'est bien, mais être chrétien tout seul n'a pas de sens. C'est comme un membre coupé du corps. Bien sûr, on peut peut-être le mettre dans un bocal de formol, je ne sais pas, mais ça n'a plus beaucoup de sens. Un membre n'a de sens que rattaché au corps. Et ce corps, ce sont mes frères et mes sœurs, ceux et celles avec qui le Seigneur a voulu me rattacher, le temps de mon pèlerinage ici-bas. L'apôtre Paul dira, nous avons tous des dons, donc des charismes, différents selon la grâce qui nous a été accordée. Je m'arrête un instant, nous avons tous des dons, donc c'est le mot charisma en grec, différents selon la grâce, qui se dit charis en grec. Donc en fait, les dons sont la manifestation de la grâce et ne sont rien d'autre que cela. Les dons, quels qu'ils soient, sont l'expression de la grâce de Dieu dans notre vie. Et je reprends ma lecture, donc nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, que celui qui préside le fasse avec empressement, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Quel programme, hein? Quel programme, et ce n'est, je dirais, qu'un échantillonnage de tout ce que le Seigneur peut nous donner comme capacité spirituelle, comme don au service du corps. Si je suis chrétien, je suis nécessairement un membre du corps de Christ. C'est quelque chose, je pense, que parfois nous oublions trop facilement. Il n'existe pas de chrétien qui ne soit pas membre du corps. Et il n'y a pas de membre qui n'ait pas une fonction. Chaque membre est un membre différent, et aussi nombreux que nous soyons, nous sommes appelés à exercer des fonctions différentes selon la vocation que Dieu nous confie. Et pour cela, Dieu nous accorde un don, une grâce, un charisme différent afin d'être capable d'accomplir la tâche qu'il nous confie. Nous avons des capacités que le Seigneur nous donne que parfois nous ignorons, que nous négligeons, et sans lesquelles nous ne pouvons servir le Seigneur que de manière charnelle, avec nos propres forces, c'est-à-dire de manière souvent fort limitée, voire parfois sortie d'une certaine fierté, voire de l'orgueil parce que nous avons fait ceci ou cela. Mais tout est grâce, et particulièrement les dons spirituels que Dieu nous donne. Nous n'avons rien fait pour les mériter. Dieu nous demande un travail et nous donne les outils pour le faire. Cette vocation, donc, c'est Dieu qui en décide, et c'est à nous de l'accomplir avec la capacité qui vient de l'Esprit-Saint. Rappelez-vous ce que aussi l'apôtre disait, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme chacun en a envie. » Ah non, ce n'est pas ce que je lis. C'est l'esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme il veut. Ceci m'autorise à vous poser une deuxième question. Mon frère, ma sœur, as-tu trouvé ta place dans le corps du Christ ? Sais-tu quelle est ta vocation ? Quelle est la grâce, l'aptitude particulière que Dieu t'a donnée pour l'accomplir ? Par expérience personnelle, je sais que l'on peut vivre une grande frustration, éprouver un sentiment d'inutilité, se sentir parfois profondément découragé, tant qu'on n'a pas découvert à quoi Dieu nous destine. Vous savez, le drame du monde, c'est que la vie n'a pas de sens. Mais que penser de chrétiens qui sont dans l'église mais qui ne savent pas ce qu'ils font là ? Pour qui finalement la vie chrétienne n'a pas de sens ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là, ce que Dieu leur demande, à quoi Dieu les appelle. Mon frère, ma sœur, tu es un membre du corps de Christ, donc le Seigneur te destine à une fonction bien particulière. Autrement dit, tant qu'on n'a pas trouvé sa place avec le secours de l'Esprit, comme on vient de le voir, à travers les arts du Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas trouvé notre place au sein du corps spirituel dont Christ est la tête, c'est exactement ce que l'apôtre nous demande et nous invite à demander à Dieu. Et c'est ce qu'il fait aux chrétiens de la ville de Colosse. Aussi, je voudrais laisser l'apôtre Paul conclure notre méditation sur les arts de l'esprit au travers de ce qu'il écrit aux Colossiens. C'est dans le tout au début du chapitre 1er, au verset 9 et suivant. Tout d'abord, une première remarque, nous cessons, dit Paul, de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle prière importante, là, Paul. Et Paul, c'est une prière tellement importante qu'il ne cesse de demander ça, que les chrétiens soient conscients, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement obéir à des commandements. Ça, je dirais, c'est le béaba de la vie chrétienne. La volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que je fais pour le Seigneur ici-bas ? Quelle est ma vocation ? Est-ce que j'ai connaissance de sa volonté ? Et Paul dit, nous ne cessons de prier pour cela, pour que chacun soit rempli de cette connaissance. Et si Paul fait cette prière, c'est parce qu'il est convaincu que la connaissance de la volonté de Dieu peut ouvrir devant les chrétiens un chemin largement ouvert vers une vie bénie avec le Seigneur. Un chemin qu'il définit comme une sorte d'autoroute qui présenterait quatre voies de bénédiction. Et nous allons revenir à ce que Paul dit pour comprendre ce que je veux dire par là. La première chose, dit-il, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point. Nous sommes toujours dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Hein. Pour connaître la volonté de Dieu, quel est le but? Eh bien, c'est premièrement marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point. Deuxième chose, nous dit-il, porter des fruits et toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Troisième chose, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Et quatrième chose, nous dit-il, avec joie, rendez grâce au Père à l'héritage, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de tous les saints. Alors, reprenons ces quatre voies, marcher d'une manière digne du Seigneur, porter des fruits et toutes sortes d'œuvres bonnes, devenir puissant à tous égards, et avec joie, rendez grâce au Père. Si vous l'avez pas retenu par cœur, retournez voir le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Alors voilà, bien-aimés du Seigneur, c'est dans ce quadruple chemin de bénédiction que je vous laisse ce matin, en priant le Seigneur que vous soyez portés par les arts de l'Esprit-Saint. Et je vous invite vraiment de tout cœur ce matin à rentrer dans ce chemin de bénédiction. Nous y avons tous part et nous y sommes tous invités. Que le Seigneur nous bénisse. Prions quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as sauvés, Seigneur, pas seulement pour qu'un jour on te rejoigne au ciel, mais pour que déjà ici-bas, animés, Seigneur, par un peu de ce ciel que tu nous donnes au travers de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous soyons portés, Seigneur, dans une pleine assurance sur notre statut d'enfant de Dieu, sur une relation déjà possible, pleinement actuelle avec notre Père Céleste dès maintenant. Mais aussi, Seigneur, tu nous invites à trouver notre place dans le corps dont Jésus est la tête, afin qu'en tant que membres de ce corps, nous soyons vraiment épanouis dans la tâche que tu nous as réservée. Seigneur, ne fais pas de nous tu ne veux pas faire de nous des enfants qui sont frustrés parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font dans l'Église, dans l'Assemblée, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui sont vraiment conscients, qui avons une pleine connaissance de ta sainte volonté. C'est la grâce, Père, que nous te demandons ce matin dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, une bonne fin de culte et dans la louange et l'adoration du Seigneur. Et à bientôt.